Bonsoir et bienvenue à cette table ronde consacrée à Denis de Rougemont et l'école. Cet événement est organisé conjointement par la Haute École Pédagogique des cantons de Berne, Jura et Neuchâtel, la HEP Béjune, ainsi que l'Université de Neuchâtel. Cette soirée s'inscrit en marge de l'exposition Denis de Rougemont pour une autre Europe qui se déroule ici au premier étage, que vous aurez l'occasion de visiter si ce n'est pas déjà fait après notre discussion. Il faut aussi savoir que cette exposition marque et a été mise sur pied à l'occasion du 70e anniversaire du Conseil de l'Europe. Alors, Denis de Rougemont, grande personnalité neuchâteloise, née à Couvet, dans le Val-de-Travers, étudiant à l'Université de Neuchâtel, est devenu rapidement un écrivain d'envergure internationale à travers ses écrits, ses conférences, ses articles. Il s'est engagé pour l'Europe, pour l'éducation, passionné de culture, de civisme, de formation. Tout au long de sa vie, il s'est demandé comment former les jeunes pour devenir des citoyens engagés, comment mettre l'école au service de la personne. C'est justement la discussion que nous allons avoir ce soir, en débordant aussi, en actualisant ce débat, en se posant la question de l'école d'aujourd'hui. Alors, quatre invités pour cette discussion. Charles Bert, ancien conseiller d'État genevois, aujourd'hui président de Pro Helvetia, va nous rejoindre d'ici à peu près un quart d'heure. J'aimerais vous présenter nos trois autres participants. Tristan Donzé est formateur à la HEP Béjune, ancien professeur de philosophie. Il forme aujourd'hui les futurs enseignants et profs de philo. Il a aussi une activité éditoriale puisqu'il est responsable des éditions de la HEP Béjune, de la revue Enjeux pédagogiques. Tristan Donzé, vous faites aussi de l'édition dans une petite maison d'édition originale et surprenante, Torticoli et Frères, à la Chaux-de-Fonds. Raphaël Ruppen-Kuta est historienne, maître assistante à l'Université de Lausanne. Elle est actuellement boursière du Fonds national de la recherche scientifique. Et Raphaël Ruppen, vous menez des recherches à l'Institut européen de Florence. Elle étudie les activités de l'Association européenne des enseignants. Nicolas Stenger, Stenger, chargé d'enseignement en histoire contemporaine à l'Université de Genève. Il est responsable du projet Rougemont 2.0. C'est donc un vaste projet de numérisation des œuvres intégrales de Denis de Rougemont. Vous êtes aussi l'éditeur de ce recueil. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà pris sur la table, qui s'y trouve ici derrière, « Faire des Européens ». Donc un recueil de textes consacrés à l'école et l'université, édité aux éditions La Baconnière. Alors merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et j'aimerais vous proposer pour commencer cette discussion que vous nous parliez du texte qui va beaucoup nous occuper ce soir, « Les méfaits de l'instruction publique ». Texte écrit en 1929, texte au vitriol dans lequel Denis de Rougemont règle ses comptes avec son enfance, sa jeunesse, mais aussi qui présage de tous ses futurs combats, liberté, formation. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Nicolas Stenger, lorsque vous avez relu ce texte aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce texte, les méfaits de l'instruction publique? Le micro marche?
Il marche, oui.
Et voilà, et vous le mettez tout près de la bouche et ça va très bien fonctionner.
Plusieurs choses m'ont interpellé en lisant ce texte. La première d'entre elles, je dirais, est liée au fait que je suis enseignant moi-même et bien évidemment, lire Rougemont, ça vous remet un peu les idées en place, je dirais. C'est quelque chose qui vous met face à vos responsabilités. C'est une sorte d'antidote à certaines routines éventuelles dans lesquelles on peut tomber. On peut être tenté de, avec notre petit bagage de connaissances qu'on a acquis au cours de nos études, de se réfugier un petit peu derrière. Et de ce point de vue-là, Rougemont, la lecture de Rougemont est rafraîchissante. Et il nous ramène à des questions fondamentales sur l'enseignement, sur la pédagogie qu'on adopte. Est-ce qu'il s'agit de dispenser, de donner ce petit bagage de connaissances, ou bien est-ce qu'il s'agit au contraire d'apprendre à nos élèves ou à nos étudiants à s'exprimer, à argumenter, à penser? Bien évidemment, la réponse, elle est dans la question. Mais ce n'est pas une tâche facile à faire, mais Rougemont a le mérite, à travers un style très propre à lui, de nous rappeler de façon très nette, très claire, les enjeux de la pédagogie et de l'éducation.
Parlez-nous de ce style.
Oui, ce style, il est à la fois difficile à définir, en même temps très reconnaissable parmi d'autres. Rougemont, c'est un écrivain avant tout. Certains ont un peu partagé sa vie entre deux moments, l'écrivain de l'avant-guerre et puis le militant fédéraliste à partir de la fin des années 40. Moi, je ne vois pas du tout de rupture, en fait. C'est quelqu'un qui a trouvé son mode d'expression très tôt. C'est l'essai, et il n'a pas changé au cours de sa vie, et donc il y a effectivement un style qu'on sent très engagé, et il n'y a pas seulement un style, évidemment il y a une pensée aussi qui est assez rafraîchissante. Et je pense toujours à ce que disait Jean Starobinski, qui nous a quittés récemment, et puis pour lui le fait de lire ou de relire Rougemont, c'était un peu comme une opération de salubrité. Il y avait comme une façon de balayer un petit peu l'écume des actualités, de l'information qui nous assaille un peu tous les jours pour nous ramener à des vérités élémentaires. Donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement un style qui est une pensée très stimulante.
Raphaël Rupen, qu'est-ce que vous avez ressenti en lisant ce texte?
Je me permets juste de rebondir sur le fait que c'est un texte qui fait du bien, dans le sens où je vais vous dire, la première fois, pour l'anecdote, la première fois où je l'ai lu, en fait, c'était dans le cadre d'un enseignement. Donc, j'étais étudiante à l'Université de Lausanne, Et j'avais préparé un séminaire sur justement ce texte, Les méfaits de Denis de Rougemont, et aussi, je pense que vous allez en parler après, les autres pamphlets aussi d'Edmond Gillard et Rouerda. Et en fait, j'avais été tellement interloquée du ton, presque gênée. C'est vrai que je sortais du collège de Saint-Maurice, en Valais, de l'abbaye, où on m'avait justement dit, une fois quand j'avais pris la parole, je pense que, et on m'avait dit, on ne vous demande pas de penser. Voilà, en fin d'études de gymnase ou de collège. Donc c'est vrai que pour moi, l'université a aussi été une forme de, même si je suis très redevable à mes enseignants de Saint-Maurice, mais ça a aussi été une forme de libération. Donc j'étais presque gênée à la lecture, honnêtement, de ces pamphlets, par le ton, par... Enfin vraiment, ça m'a aussi mis une claque à ce moment-là. Maintenant, en les relisant, ce qui m'a frappée, ce que je n'avais pas été attentive vraiment à ça à l'époque, c'est l'idée, enfin c'est vraiment le côté expérience personnelle. Je trouve que c'est un texte vraiment qui sonne très authentique, très frais. Enfin, on sent le petit Denis de Rougemont. Bon, c'est vrai qu'il est jeune au moment de l'écriture, mais on sent vraiment l'enfant en Denis de Rougemont qui pleure tellement, il a souffert de ses années d'école. Et évidemment, ce qui frappe aussi, je dirais, c'est le rôle vraiment central qu'il donne à l'école, que Denis de Rougemont donne à l'école, le rôle justement le lieu de formation de citoyens, enfin vraiment le rôle cardinal aussi des enseignants. Et ça nous rappelle, et ça nous interpelle, je pense, bien sûr en tant qu'enseignants, mais aussi en tant que citoyens. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus.
Oui, il faut dire que Denis de Rougemont, il ne va pas par le dos de la cuillère. Hein. Il parle de la laideur des collèges, de l'odeur de goudron et d'urine noire dans les corridors, des instituteurs petits bourgeois. Il compare l'école à une distillerie de l'ennui. On y pratique le gavage, l'endoctrinement. C'est une machine de crétinisation lente. Juste pour vous donner quelques idées des termes utilisés. Tristan Danger, pour vous, c'est aussi une claque un coup de cœur. Qu'est-ce que vous avez ressenti en relisant ce texte ?
Bon, déjà, oui, je l'ai lu chez l'éditeur L'Âge d'Homme. C'est vrai que L'Âge d'Homme a changé un peu, mais je pense que les éditeurs suisses romands avaient quelque chose à proposer, justement. Et là, ces trois pamphlets, en fait, vont bien ensemble. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler par la suite, puisqu'il y en a un qui a influencé aussi Denis de Rougemont, je crois, dans la rédaction de ces méfaits. Moi, ce que j'y ai vu, c'est surtout une voix, un chant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez Denis de Rougemont de la poésie, au sens où on sent qu'effectivement l'enfant est blessé, mais il le dit à plusieurs reprises, c'est ma sensibilité en fait, et la sensibilité à tous les droits. Et je trouve intéressant dans un contexte comme celui-là, parce que c'est vrai qu'on est juste après aussi toute l'expérience nietzschéenne, d'ailleurs qui m'étonne, parce que Denis de Rougemont en parle peu dans La Suisse ou l'histoire d'un peuple heureux de Nietzsche. Et en fait, on a un peu une voix comme ça poétique qu'on va retrouver dans Zarathoustra et chez pas mal de penseurs libertaires. Et c'est cette voix en fait qui m'interroge, parce que j'y vois une mise en abîme, c'est-à-dire que l'enseignant porte avec lui aussi une expérience de vie, une biographie. Il porte avec lui des contradictions aussi. Et on a l'impression que Denis de Rougemont va au-delà de ce cartésianisme qui le dérange au fond dans son côté rationaliste un peu simpliste, c'est-à-dire qu'il va accepter la contradiction et dire oui, j'ai des choses à dire, j'ai été blessé en tant qu'enfant dans cette école-là, sous la forme qu'elle prend. Et il s'en prend à l'État aussi avec une virulence qu'on n'attendait pas, peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de Denis de Rougemont, hein, donc je vais dire beaucoup de bêtises ce soir, j'imagine. Mais ça m'étonne, en fait, en tant que lecteur, cette virulence vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de ce bien public qu'est l'école, avec ses droits et ses devoirs. Et on a l'impression qu'il les gratigne, en fait, qu'il lui dit ce qu'il a vécu, mais en tant qu'être sensible. Et juste pour terminer, ce qui m'intéresse dans la voie poétique, c'est si j'emprunte les mots à Paul Celan, qui est un poète, qui disait qu'un poème, c'est comme une poignée de main. Et en fait, on a quelque chose de ça dans ce texte, c'est-à-dire qu'on rencontre une perspective, on rencontre un vécu. Et au-delà de ça, on épouse cette perspective et on se dit, tiens, l'école peut apparaître sous ce jour à certains élèves. Et donc on est au-delà de tous les grands concepts, l'inclusion, la différenciation et tout ça. On a vraiment une expérience qui est de l'ordre de l'identité narrative, quoi, vraiment du vécu. Et il y a une forme de reconnaissance. Enfin, voilà, c'est ce que j'y vois.
Très bien, alors ça c'était un peu pour l'introduction, pour vous mettre au parfum de quoi est-ce qu'on va parler ce soir. Peut-être aussi pour que ce soit clair pour vous, nous vous proposons ce soir une heure de table ronde, de discussion avec nos invités. Les organisateurs souhaiteraient que cette soirée soit aussi participative, interactive, donc vous aurez l'occasion de poser vos questions, d'intervenir, remarques, commentaires. On a prévu du temps après pour ça, une trentaine de minutes. Alors parlons de ce contexte historique. Alors vous dites, Tristan Danzy, que vous n'êtes pas un grand spécialiste de Rougemont, mais nous avons un spécialiste de Rougemont avec nous, monsieur Stanger. Pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait à ce pauvre petit de Denis de Rougemont à Couvet, enfant, pour qu'il nous écrive les méfaits de l'instruction publique ? Qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance pour voir une telle réaction ? Précisons peut-être encore que Denis de Rougemont a 22 ans quand il écrit ce texte.
Oui, effectivement, il a 22 ans. C'est en fait le premier texte, premier essai publié par Denis de Rougemont. Il a déjà publié des articles dans diverses revues suisses, mais c'est vraiment un premier essai pour lui. Et donc son style s'en ressent, il est outrancier, il y a quelque chose dans le fait un petit peu de s'affirmer comme un jeune écrivain. Donc ça explique aussi pas mal d'injustice dans son texte.
Et qu'est-ce qu'il vit dans sa famille, dans sa vie privée pour
alors en fait il
y a un tel volcan.
Oui. Bon, effectivement, c'est une expérience qui l'a traumatisé, en tout cas c'est ce qu'il dit. Après, c'est un traumatisme dont il s'est quand même rapidement relevé, hein. Faut nuancer quand même les choses de ce point de vue-là, mais c'est vrai que son expérience de l'école est extrêmement négative pour lui. Ça tient à pas mal de raisons. Ça tient déjà à la richesse de sa vie personnelle, familiale. Ça, c'est un élément qu'on peut mettre en avant. Rougemont, c'est quelqu'un qui, de par son père notamment, qui était pasteur, a eu l'occasion de vivre pas mal de choses dans l'entourage du presbytère. Il y a beaucoup de gens qui passent par là pour venir se confier, des paroissiens. Donc il y a tout un milieu qui l'entoure, auquel il est sensibilisé, très tôt. Il apprend à connaître indirectement ces gens-là. Donc tout ça, c'est une expérience qui le nourrit de façon fondamentale. Et qui est toute naturelle, vécue, et qui contraste un petit peu avec le côté artificiel de l'école, où on rassemble un petit peu des élèves plusieurs heures par jour sur des bancs, et il y a un côté un petit peu vain, un petit peu artificiel chez lui. Après, il y a des raisons très concrètes, effectivement, qui expliquent un petit peu la virulence de sa critique. Le fait notamment que il s'ennuie terriblement à l'école parce que il a acquis un certain nombre de savoirs fondamentaux comme la lecture avant d'y entrer. Il y a le fait aussi que comme il est un petit peu en avance par rapport aux autres, et il se sent en décalage par rapport aux autres élèves. Et ça nourrit chez lui, si vous voulez. Il y a quelque chose, il ne comprend pas qu'on puisse traiter tous les élèves de la même façon. Donc il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et puis il y a aussi un rapport très très conflictuel par rapport à la discipline et par rapport aux instituteurs. Ça c'est le cas. Hein. Donc Rougemont n'est pas pour ou contre la discipline, mais si la discipline consiste, comme certains des instituteurs qu'il a pu... croisé sur sa route par des mesures vexatoires, un peu humiliantes, à tenir une classe simplement pour le plaisir de tenir une classe propre et sans que personne ne dépasse du rang. Évidemment, pour lui, la discipline n'a aucun intérêt. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, je dirais, ça rebondit un petit peu sur ce que disait Tristan Donzé sur l'expérience de l'instituteur. Je crois que effectivement, il y a chez lui aussi une sorte de scepticisme par rapport au fait que les instituteurs qu'il a croisés, pour lui, n'avaient pas véritablement vécu. Hein. Il disait, il y avait une formule, enfin une anecdote pour dire qu'en gros, pour lui, l'instituteur, c'était le bon élève qui était au premier rang de la classe. Et puis un jour, il s'est levé du premier rang. Et puis il a fait deux mètres, et puis il s'est retourné, il s'est assis dans la chaise de l'instituteur, et puis voilà. Voilà ce que c'est qu'un instituteur. C'est quelqu'un qui, en fait, n'a pas vécu entre-temps. Et là, donc c'est évidemment caricatural, mais ça vous donne une idée du prix qu'il attache à l'expérience vécue dans la transmission ensuite d'un enseignement et d'une expérience de vie.
Nous accueillons Charles Bert. Bonsoir. Et désolée pour vous d'avoir mis autant de temps à rejoindre Neuchâtel ce soir. Vous êtes victime des pannes des CFF. Mais nous sommes très heureux de vous accueillir et très heureux de savoir que vous avez fait le chemin jusqu'à nous. Donc Charles Bert est avec nous, ancien conseiller d'État genevois, directeur du département de l'instruction publique à Genève pendant 10 ans. 10 ans et aujourd'hui président de la Fondation Pro Helvetia. Charles Bert est également l'auteur, vous allez trouver son texte dans cette petite brochure, donc c'est la préface du recueil édité à la Baconnière dont on a parlé, Faire des Européens, très beau texte qui réactualise les écrits de Denis de Rougemont et que je vous conseille. Donc, un peu de rattrapage, Charles Bert. On vient de parler des méfaits de l'instruction publique, du contexte aussi historique, 1929, Denis de Rougemont a 22 ans, pourquoi est-ce qu'il écrit ce texte quels sont les autres éléments qui sont importants à savoir par rapport au contexte? Tristan Donzé, est-ce qu'il est important, est-ce que Denis de Rougemont est le seul à se révolter contre l'école à cette époque, ou finalement est-ce que beaucoup d'autres personnes, penseurs, philosophes, partagent le même avis que lui?
Je ne sais pas, parce que je ne connais pas assez l'histoire pour dire ça, mais je pense qu'on est dans un contexte. Moi j'ai toujours lié les méfaits à la Suisse ou l'histoire d'un peuple heureux. En fait, parce que dans l'école telle qu'elle est prévue en Suisse, il y a une volonté d'harmoniser qui est très très, enfin, qui date de longue date, qui est de longue date. En fait, on a envie d'harmoniser le programme scolaire. Seulement, on n'y arrive pas. Pendant des années, on essaye. Je simplifie un petit peu, hein, au maximum, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté fédéraliste où les cantons ont finalement un peu le dernier mot. Et vont pouvoir décider d'ajuster un programme d'études romans ou d'y amener une touche, une coloration par rapport à une laïcité propre, par rapport à l'expression d'un régionalisme. Et donc, il y a cette volonté d'uniformiser. Et Denis de Rougemont, je crois, et dans son admiration pour Ramu et la distance qu'il a aussi vis-à-vis de Ramu, trouve ça assez intéressant. Et dès le départ, il y a ce regard-là. Et donc, bon, je pourrais développer là-dessus, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la posture bourgeoise, au fond, où ce qui le dérange, c'est la petite bourgeoisie. C'est-à-dire, c'est l'incapacité de se concentrer, parce que par exemple la discipline, les méfaits se terminent sur une éloge, alors certes fort ironique, mais de l'armée suisse. Et donc il y a toujours ce petit détail, comment dire, ironique, qui nous fait penser est-ce qu'on est vraiment dans une critique de la discipline, ou bien c'est parce qu'il n'y a pas assez d'autonomie, pas assez de responsabilisation, pas assez de liberté accordée à l'enfant, c'est-à-dire dans sa propre prise de décision. Et donc on a l'impression que l'école est incapable de materner comme la mère a su materner. Qu'elle inculque des normes sociales qui sont forcées, on vit ensemble, et donc là, d'où l'ironie vis-à-vis de l'armée, enfin j'imagine. Et puis d'un autre côté, il n'y a pas l'autorité du père, il n'y a pas ce regard, comment dire, responsable face auquel on peut se développer soi-même. Et donc l'histoire du fédéralisme, c'est aussi un petit peu ça, c'est un peu les 26 États enseignants qui développent un peu leur propre manière de voir. Et je dis ça, en fait, à Ramu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un échange magnifique entre lui et Rougemont, justement, à l'époque de la possible parution d'une revue qui s'appelait Esprit, hein, qui était une très grande revue littéraire, au fond. Et Ramu lui dit qu'il ne veut pas participer. Et pourquoi ? Parce que la Suisse n'existe pas. Et il y a un échange magnifique entre...
Déjà à l'époque.
Oui, déjà à l'époque. Et donc, mais je ne vais pas trop développer là-dessus, mais je pense que la Suisse n'existe pas aussi dans cette fédération d'États. Il y a quelque chose d'assez illusoire, au fond, à ses yeux, et d'assez assez problématique, parce que, finalement, l'État fort, l'État-nation, c'est aussi quelque chose qui fait peur, quoi, et qui peut, de manière, comment dire... un petit peu, on imagine à l'époque, hein, quand même impressionner les penseurs de la liberté. Voilà.
Mais encore quelques mots sur le contexte, oui, Raphaël Ruppen.
Mais je sens que je vais
contexte historique.
Non, pas du tout. Mais non, je me permets de rebondir juste sur deux aspects qui m'a aussi, en tant que non spécialiste de Denis de Rougemont, mais l'aspect finalement le hiatus, si on veut, entre un style justement extrêmement mordant, virulent, cinglant, des phrases extrêmement percutantes, et finalement une relative modération dans le contenu. Enfin, si on regarde dans les... Enfin, ça serait intéressant d'en discuter quand même, parce qu'il tient des propos justement proches de l'anarchie, après en disant non, mais il faut quand même... Enfin, il y a quand même une forme de... Enfin, voilà, ça, je pense que ça serait quelque chose qui... En tout cas, je serais curieuse aussi d'en discuter. Et puis, je voulais juste ajouter par rapport aussi au contexte, je dirais, historique, quand même, on sent déjà dans ces méfaits de 29, quand même, aussi l'importance, il met beaucoup en avant l'importance de l'école comme étant un lieu qui doit ouvrir les élèves à une conscience du monde plus large que, justement, le seul cadre scolaire. Donc là, on a, bon, ça c'est peut-être avec un regard un peu trop anachronique, mais déjà quand même le sentiment qu'il y a le poids des événements. Enfin, il y a forcément la Première Guerre mondiale,
le nationalisme,
la question des États-nations qui est déjà présent et qui effectivement vont être un peu ces chevaux de bataille dans ces textes futurs après la Seconde Guerre mondiale.
Charles Bert, vous qui signez cette préface, vous êtes plongé dans ses écrits. Est-ce que vous avez été surpris que les méfaits de l'instruction publique écrits en 1929 ont été suivis d'une suite? Donc en fait, on remet la compresse dans les années 70, en 1972.
Oui, on peut dire persiste et signe. Donc, pratiquement un demi-siècle plus tard, il reprend exactement les mêmes axes. Et je dirais de façon finalement peu étonnante, étant donné l'actualité de son propos, toujours aujourd'hui. Alors forcément, quand en 1970, se posait dans les années 70 déjà ces questions de savoir comment l'école devait évoluer, puisque en réalité, je dis quand même qu'entre 1929 et 1970, il y a eu des évolutions, mais finalement, les fondements de ce qu'on appelle l'instruction publique sont restés inchangés. On est probablement au début du siècle dans la construction d'une identité encore nationale de la Suisse moderne, mais à ce moment-là, on veut faire nation, comme on le dit en France aujourd'hui dans le débat, comment faire nation ? On veut faire nation et on passe par l'école. Et on passe par l'école en inculquant de la même manière à tous les élèves, au même rythme, finalement, la manière de se comporter en citoyenne et en citoyen, c'est-à-dire un prête à agir comme citoyen, plutôt que d'aller dans un sens d'une individualisation de l'enseignement, d'une découverte d'un certain nombre de fondements de la richesse, finalement, de ce qui provient de notre histoire, en particulier aussi du Moyen-Âge. Donc, tout un élément qui est ignoré à cette époque, très clairement, de l'instruction publique. Donc, dans les années 70, au moment où se reposent les questions de la finalité du progrès, viennent aussi des premiers syndicats, des remises en question du progrès en tant que progrès, donc de la croissance pour la croissance, eh bien, il repose finalement le même type de questions de manière à se libérer finalement de ce carcan qui empêche la réflexion et qui empêche véritablement le développement de l'autonomie de la citoyenne et du citoyen. Et ça, je crois que c'est un élément fondamental donc, qui fait que son texte pouvait être actuel finalement un demi-siècle après, comme un siècle après, puisque encore c'est le cas aujourd'hui. Rassurez-vous, il n'y a toujours pas dans les faits d'harmonisation, même s'il y a un concordat sur l'harmonisation, dans les faits, les 26 cantons ne se sont toujours pas harmonisés. Et à l'époque où, finalement, en 1929, on avait tout ce rejet aussi personnel et viscéral de Denis de Rougemont de l'institution scolaire, eh bien, c'était à couvert. Et puis, en même temps, ce n'était pas la même chose à Zurich, ce n'était pas la même chose à Lugano, ce n'était pas la même chose, puisque les décalages même de la durée de l'instruction obligatoire n'étaient pas la même. On passe pratiquement déjà donc, de 8 à 11 ans, d'ores et déjà, dans la durée de l'instruction obligatoire. Donc, voilà, on y est toujours, j'ai envie de le dire, même si aujourd'hui, il y a un fondement d'harmonisation, mais du point de vue des contenus, on reste très en retrait, finalement, de cette aspiration à développer une critique de la part des écoliers vis-à-vis de l'institution, de former des futurs citoyennes et citoyens. On reste en retrait de ce qu'on pourrait faire largement dans cette institution.
Alors, avant qu'on parle de l'école d'aujourd'hui, quel progrès est-ce qu'on a fait, quel changement par rapport à toutes les critiques de Denis de Rougemont, on va s'attarder un moment sur la dimension européenne d'éducation. Raphaël Ruppen, ça vous paraissait très important de mettre le doigt finalement sur tout le projet de Denis de Rougemont, former des Européens. C'est faire l'Europe, c'est d'abord faire des Européens. Il s'agit d'avoir une méthode d'éducation européenne. Vous, dans vos travaux, vous vous plongez dans les archives de l'Association européenne des enseignants. Est-ce que vous avez trouvé trace et quelle trace de ce grand projet d'éducation européenne ? Avec le micro, ce sera super.
Excusez-moi. Donc, je pense que c'est un axe tout à fait fondamental. Alors, c'est vrai que là, on est plutôt dans la suite des textes que Nicolas a proposé d'en faire des Européens. On est plutôt après la Seconde Guerre mondiale, où justement, Denis de Rougemont va affirmer justement de quelle l'école produit quel citoyen. Et lui, il perçoit le citoyen non plus en lien avec l'État-nation, mais qu'il faut justement sortir l'élève de ce carcan national pour l'ouvrir sur l'Europe. et en lien avec donc, le projet de construction européenne. Il va fonder donc, le Centre européen de la culture en 1950, qui est un centre qui existe encore actuellement et qui cherche justement à développer cet esprit européen par le biais culturel, par le biais de l'éducation également, puisque, comme le dit clairement Denis de Rougemont, on le retrouve dans un de ses textes, justement, faire des Européens, faire l'Europe, c'est faire des Européens, et faire des Européens, pour raccourcir la formule, c'est voilà, ça passe par l'éducation. Donc c'est vraiment un grand projet et il va justement être en lien, il n'est pas seul, évidemment, dans ce contexte des années 50, à mettre en place ce type de réflexion, puisqu'il sera notamment accompagné par l'Association européenne des enseignants, qui, elle, va justement relayer, dans le cadre là, stricto sensu de l'école, relayer des activités, des actions pour former, à la fois former les enseignants et à l'Europe. Alors on peut justement rediscuter qu'est-ce qu'il entend par éducation européenne, je pense que ça peut nous interpeller. Mais disons, former les enseignants et toucher également les élèves par diverses activités, comme la journée européenne des écoles, ces choses qui existaient. Voilà.
Donnez-nous justement des exemples concrets. À l'époque, il y a une journée européenne des écoles. Ça nous paraît un petit peu fantaisiste aujourd'hui, mais effectivement, ça existe. Il y a d'autres choses qui se mettent en place.
Alors peut-être juste quand il parle justement d'éducation européenne, c'est une notion qui est souvent évoquée. Donc il s'agit plutôt que d'instruire véritablement sur le projet européen, les institutions européennes, il s'agit véritablement d'une autre, nouvelle perception, si l'on veut, de l'enseignement. Ça veut dire désintoxiquer, comme il dit, l'histoire de tous les aspects justement nationalistes, des préjugés, des ressentiments. Enfin, c'est vrai, dans ses textes, il évoque très clairement presque vraiment l'idée que finalement, ces manuels scolaires, il faut les réformer parce que ces manuels ont finalement était une cause des guerres mondiales, des nationalismes, etc., ont été un facteur. Donc voilà, et en fait, pour juste revenir sur la journée européenne des écoles, c'était vraiment un concours en fait, international organisé. La Suisse était partie prenante, parce que justement du côté de Genève, il y avait vraiment un conseiller d'État, Borrell, si je me souviens bien, et plusieurs secrétaires généraux qui ont vraiment favorisé, parce qu'il faut savoir que dans les années 50, en Suisse romande, il y avait vraiment un élan. Du côté des départements d'instruction publique pour favoriser le projet européen. Et dans ce cadre-là, il y avait un concours international organisé. Donc chaque élève des différents pays pouvait proposer un dessin pour les plus jeunes, une dissertation pour les plus grands sur une même thématique européenne. Donc là, l'idée, c'était vraiment de finalement créer comme une communauté supranationale d'élèves qui, au même moment, dans divers pays d'Europe, réfléchissaient à des questions européennes.
Et faisaient tous la même dissertation.
Voilà.
Ça, c'est quand même, et ça s'est perdu à quelle époque ? Ça a duré jusqu'à dans les années 60.
Même plus tardivement. Mais ça a été repris par la journée de l'Europe et le Conseil de l'Europe. Enfin, ça s'est gentiment été un peu récupéré. Mais parce qu'évidemment, ça demandait il y avait une participation importante. Ça demandait un énorme effort des enseignants. En termes de correction, etc. Toute une logistique qui serait beaucoup plus simple à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de retomber sur ces dissertations. Alors, il y a des choses très concrètes du type, vous avez une correspondante qui aimerait venir, qu'est-ce que vous lui racontez, quel pays d'Europe vous voulez l'encourager à visiter. Aussi, on cherche beaucoup à faire parler des préjugés, justement, sur les divers pays d'Europe. Finalement, quels sont les Européens les plus sympathiques à vos yeux ? Alors, il y a des questions qui prêtent un peu à sourire, mais voilà.
Tristan Danger, aujourd'hui, on va commencer à parler de l'école d'aujourd'hui. Est-ce que ce grand projet européen avec manuel scolaire, bourse, échange, militantisme des enseignants, on en est où aujourd'hui ?
J'aurais pas la prétention de tenir un propos sur l'ensemble de l'école de manière catégorique. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'on a aussi passé aux exigences de l'OCDE, les rapports PISA, par exemple, une tentative aussi d'uniformiser, de vérifier que dans chaque pays, on fasse à peu près les mêmes choses. Et je trouve intéressant l'idée de la dissertation, parce que faire une dissertation dans chaque pays pour entendre des historicités, pour développer le particularisme, pour déconstruire les préjugés, pour développer l'autonomie, l'esprit critique, le sens de la poétique, c'est autre chose que d'avoir une dissertation qui est corrigée identiquement dans tous les pays du monde, avec une prétention d'avoir une axiologie absolument identique. Et je pense qu'on oublie un petit peu que déjà à l'époque, peut-être Denis de Rougemont est dans cette tension-là par rapport à ça. Enfin, je ne sais pas, j'imagine, hein, du peu que je connais. Parce que j'ai l'impression que je tire par exemple une information d'un ouvrage qui est apparu dans l'HEP Béjune de Patrice Alain Franchini qui a fait un travail magnifique sur l'histoire des institutrices et des instituteurs dans le canton de Neuchâtel. En 1924 se tient une conférence à Lausanne pour savoir comment placer dans les milieux professionnels les futurs élèves. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de prévoir l'employabilité des élèves. Donc l'école est en train de travailler sur l'employabilité. Et donc cette influence de l'économie sur la scolarité doit être très heurtante pour quelqu'un qui place l'esthétique avant l'éthique, voyez, ou qui dit que l'éthique se fonde sur l'esthétique. C'est heurtant de voir l'influence de l'économie. Et je pense que je me demandais pourquoi il associait philosophe et économiste aussi dans le texte justement des méfaits. Et je pense qu'il y a peut-être ça. C'est les faiseurs de valeurs, c'est les décideurs, c'est les gens qui s'octroient au travers du savoir un pouvoir qui peut avoir des conséquences assez gravissimes sur l'état même d'une société, d'une région, voire d'une pensée individuelle. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est pas changé en fait entre aujourd'hui et hier, qui s'est même peut-être aggravé au fond. Par rapport à cette volonté d'harmoniser, d'uniformiser, d'avoir à peu près les mêmes programmes, les mêmes éléments, d'avoir des moyens d'enseignement qui sont suivis, qui pourraient être suivis page par page, au même moment, à chaque instant, dans chaque canton de Suisse. Et je pense que ça, c'est faire offense à la beauté de la Suisse, puisque sa définition même, c'était que c'était un État qui empêchait justement de faire l'homme à sa manière, comme il le disait, c'est-à-dire que chaque homme devenait créateur de lui-même. Et donc, je pense que l'élève, aujourd'hui, je ne sais pas quelle liberté on lui donne, quelle créativité.
C'est vous qui êtes à la HEP.
Je pose une question pour ne pas répondre avec une critique qui serait peut-être malvenue vis-à-vis de mes collègues et vis-à-vis de... Donc je me permets de poser la question.
Alors on va la poser à Charles Baird. 10 ans à la tête du département de l'instruction publique du canton de Genève, aujourd'hui l'école vise-t-elle à former des personnes libres, responsables, dotées d'un esprit critique, avec un pouvoir de contestation? Est-ce que vous pensez que... Quelle est l'actualité du texte de Rougemont aujourd'hui? Est-ce qu'on a fait des progrès?
J'ai plutôt envie de dire qu'on régresse sur un certain nombre de points. Et en même temps, il y a des avancées qu'il faut constater.
Alors, peut-on d'abord les avancées?
D'abord les avancées, je pense que jamais nous n'avons eu... Du point de vue des textes, et là je parle du plan d'études roman, je parle d'un certain nombre de thématiques qui sont abordées même de façon transversale et insuffisante, finalement une telle ambition du point de vue de la formation des élèves sur le papier. Donc en même temps que tous les cantons francophones donc, soient capables d'édicter en commun une vision partagée dans laquelle on place quand même l'objectif de la conscience critique de l'élève, c'est déjà quelque chose qu'il faut remarquer comme un élément, j'ai envie de dire, bénéfique, c'est-à-dire qui est une avancée par rapport aux préoccupations de Denis de Rougemont. Je parle y compris de la question de la place de l'Europe, je parle y compris de la question de l'environnement, de la place de l'environnement, de l'humanisme, de la culture. Mais nous sommes ici sur le papier, c'est-à-dire le plan d'études roman et... Toujours une très grande place laissée, malgré tout aujourd'hui, aux enseignants, et là-dessus nous avons aussi beaucoup changé, c'est-à-dire qu'il y a une grande diversité du corps enseignant, avec certains qui sont très porteurs de ces changements, et d'autres qui le sont beaucoup moins, pour ne pas dire que certains y sont totalement réfractaires. Donc il y a aussi là-dessus une forme de morcellement du corps enseignant par rapport donc aux premières années de pamphlet de Denis de Rougemont. Si je prends le côté de la médaille maintenant, je suis obligé de dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont historiquement, du point de vue de l'évolution entre guillemets, passées par là, et notamment un changement d'époque. Un changement d'époque qui se traduit aujourd'hui, bon, vous parliez de PISA tout à l'heure, Plus que PISA, moi, ça ne m'indigne pas qu'il y ait PISA, parce que finalement, c'est une mesure très technocratique, si on veut, normalement, qui vise à mesurer des compétences d'élèves. On peut en discuter de l'utilité. C'est certainement pas le fondement de l'instruction publique, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est frappant, c'est l'utilisation de PISA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un phénomène médiatique, un phénomène de population à travers lequel on mesure non seulement, évidemment, les performances des élèves, mais le classement et, bien évidemment, la question de l'insécurité que les parents ressentent aujourd'hui dans la mondialisation par rapport à la place et, respectivement, à l'héritage qu'ils peuvent laisser à leurs enfants sur le plan culturel et d'une place assurée dans la société. D'où une crispation sur la question scolaire. Et de ce point de vue-là, on régresse. Et puis une deuxième chose qui est frappante également, c'est que dans cette époque-là, eh bien, nous avons à la fois très clairement, toujours dans ce contexte de mondialisation, eh bien, une crise des recettes du point de vue de l'État qui fait qu'on arrête d'injecter des moyens supplémentaires dans l'instruction. Ça, c'est quand même un phénomène notoire. C'est-à-dire qu'à travers la crise de l'État-providence, eh bien, l'école est frappée. Ce qui veut dire qu'il y a également ce contexte, si vous voulez, de pression sur le plan scolaire se fait dans une institution qui a de moins en moins les moyens, finalement, de ses ambitions, d'où l'écart, le plan d'études roman, et justement donc, cette question de réalité des moyens qui sont alloués à l'enseignement. Puis la troisième chose qu'il faut également noter, c'est la question du retour du nationalisme. Et de ce point de vue-là, sur le plan scolaire, ça se traduit également. Jamais j'ai vu autant dans les grands conseils, même au-delà de Genève, au-delà de la Versoie, une telle crispation aussi sur les enjeux scolaires, pour notamment se poser la question de l'appartenance, de la question du drapeau, de la question du canton, puisqu'il y a non seulement une compétition internationale, mais une compétition intercantonale. Il faut savoir si le Valaisan est devant le Fribourgeois, parce qu'évidemment le Genevois est plutôt derrière, avec de temps en temps l'exploit de doubler un Vaudois. Mais enfin bref, j'ironise un tout petit peu pour dire que cette compétition devient un peu une forme de maladie et que le nationalisme, évidemment, se greffe sur cet esprit de compétition pour hisser haut le drapeau de l'appartenance plutôt que de mettre en évidence eh bien, l'importance d'un savoir partagé universel. Voilà cet écart. J'étais un peu long, excusez-moi.
Tristan Donzé, vous partagez cet avis ?
Oui, parce que je vais me livrer quand même un petit peu sur deux, trois éléments. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu, comme pour reprendre une expression de Philippe Mérieux, un peu le miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'on est, le politique aussi applique des principes de manière un petit peu aveugle et sans laisser beaucoup de place à l'autonomie. Je ne sais pas, par exemple, on va avoir le principe d'inclusion, donc on va mettre en place des accompagnants pour faire un bricolage, par exemple, etc. Vous avez moi, j'ai des témoignages assez directs de gens qui disent, mais en fait, on peut laisser ces enfants s'autonomiser. Leur bricolage ne sera pas aussi beau que celui des autres, mais il aura une autre beauté. Donc on est en train de mettre de côté un tout petit peu la différence sous prétexte d'inclusion, par exemple, par grande vulgarisation de principes. Et on met un peu de côté tout ce côté de responsabilité, au fond, parce que, à cause du principe de compétition, justement. Et c'est ça que je trouve incroyable dans les méfaits, c'est qu'il y a cette anticipation du principe de compétition, qui n'est pas une vraie compétition. Puisque Denis de Rougemont aurait gagné tous les prix dès son entrée à l'école, puisqu'il savait lire. Et c'est cette espèce de mauvaise foi, d'uniformisation, de peut-être d'égalitarisme à l'envers, au fond, c'est-à-dire de volonté d'absolument, comment dire, de faire de chacun un être compétitif dans un marché, sans doute, ou dans son rapport à l'autre, et de chercher dans l'école l'utilité seulement, l'utilité de la mesure vis-à-vis de l'autre, sans avoir... Alors là, c'est tout l'opposé de l'esprit critique. Et donc, je pense qu'effectivement, on est dans... J'aurais d'autres exemples, hein, mais il y a des influences très directes aussi de l'économie. Si on prend par exemple le nouveau plan pour les assistantes en pharmacie, par exemple, qui va être voté avec l'aval de la CDIP, on décide de mettre de côté le français, par exemple. On va avoir, on va plus faire de littérature, ça n'a plus vraiment de sens. Et
ça, c'est le signe de quoi alors ? On abandonne les compétences académiques et...
Ben, je pense que c'est le signe que ce qui était encore comment on va dire, éthique dans le programme d'études romans, c'est-à-dire ces compétences transversales, cette capacité à développer son libre arbitre. Je pense que ceci peut gentiment être mis de côté, et c'est ça qui me fait le plus peur dans l'école d'aujourd'hui. C'est, en tout cas, en tant que formateur, j'essaie de veiller à ça, c'est-à-dire de réveiller cette manière de penser par soi-même et ne pas penser en fonction de l'utilité du savoir par rapport à un champ économique ou par rapport à un champ de pouvoir social. Voilà.
Donc, comme dit Denis de Rougemont, on produit des individus calibrés en fonction des exigences de l'économie et du marché.
Oui, je rejoins ce qui a été dit avant. Je pense qu'il y a même une compétition intercantonale. On sait que, par exemple, il y a une étude qui a été faite sur les évaluations PISA où on voit qu'on a un effet PISA sur la manière d'enseigner. Et ça, tout enseignant le sait. Il suffit si on veut faire réussir des examens, il faut connaître les examens. Et à force de les connaître, on finit par... Donc on ne réfléchit plus au sens du programme. On réfléchit simplement à comment être compétitif par rapport à mon propre programme. Et donc, pour moi, c'est... Enfin, je m'excuse, mais par rapport à mon amour de la littérature, c'est une offense absolue, quoi. Vous voyez, par exemple, il y a quelque chose d'indécent, quoi.
Nicolas Stangère, qu'est-ce que vous pensez de l'actualité de ce texte aujourd'hui ? Vous reconnaissez l'école d'aujourd'hui dans les méfaits de l'instruction publique ?
Alors, je serais pas compétent pour vous répondre précisément dans la mesure où je ne suis pas un observateur vraiment au quotidien de l'école d'aujourd'hui. Ce que je remarque, moi, de mon côté, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de diagnostics qui sont posés dans les méfaits en 1929 et qui se retrouvent dans des livres blancs, des bilans qui sont faits notamment... J'en ai lu un il n'y a pas si longtemps que ça, par le syndicat des enseignants romans, qui avait fait un petit livre blanc qui s'appelait « Pour un humanisme scolaire », publié il y a quelques années de cela. Et effectivement, on retrouve des formules du type voilà, « l'égalitarisme se traduit par une égalité de mauvais traitements », par exemple, ou bien encore la différenciation peine face à la tendance à la création des clones, la fabrique des clones, par exemple. Donc on retrouve tout un tas de diagnostics qui renvoient, bien entendu, à cette espèce de critique qui traverse le pamphlet, et pas seulement le pamphlet, mais aussi la suite du pamphlet, des méfaits, de Rougemont contre cette école qui est effectivement cette tendance à l'uniformisation, alors uniformisation en vue de créer des individus qui soient alors soit au service du marché, bien calibrés, bien rangés, soit, alors à l'époque de Rougemont, c'était plus au service de l'État.
Du pouvoir.
Au service du pouvoir, effectivement, puisque fondamentalement pour lui... Cette école, et Charles Baird l'a bien rappelé tout à l'heure, elle est née dans un contexte historique, politique, qui n'est pas seulement celui de la Suisse, mais des États européens à la fin du 19e, au début du 20e, d'édification, de consolidation des États-nations, de fabrication de l'identité nationale. Donc elle est étroitement liée à ce contexte-là. C'est voilà, largement documenté par les historiens. Et donc, après, sur la question de l'individu et du marché, Rougemont a davantage développé ce point-là, notamment dans sa critique de l'université et des dérives qu'il observait de l'université, et notamment la professionnalisation à outrance de l'université, qui était, bien entendu, pour lui, en totale contradiction avec son ambition première, qui était une ambition d'universalité, comme son nom l'indique, mais aussi de questions de recherche du sens, de réflexion sur la société, mais aussi, in fine, de critique des fondements même de cette société et du régime dans lequel on vit. Donc évidemment, c'est encore tout à fait actuel.
Une question par rapport aux solutions. Hein, ces enfants libres, créatifs, dotés d'esprit critique, c'est magnifique. Denis de Rougemont dit il faut sortir de l'école, il faut sortir des bancs d'école et libérer les enfants. Charles Bert, comment on fait quand on est politicien ou chef de l'instruction publique et qu'on a tous les parents qui veulent le retour de l'école de grand-papa? C'est à peu près ça. Hein. Tout le monde veut le retour des notes. Tout le monde veut des enfants calibrés avec des enfants qui ont des super résultats scolaires à l'ATP de l'école. Et puis en même temps, il faut la liberté.
Bon, d'abord, peut-être juste une précision. Je n'ai pas accepté l'invitation comme tentation de faire un exercice de psychanalyse sur 10 ans de responsabilité à l'instruction publique, parce que ce serait évidemment beaucoup trop court pour me livrer à cet exercice. Donc, peut-être pour tenter de répondre à votre question, c'est effectivement, j'ai envie de dire, ce qui distingue l'apparence de la réalité. Je pense qu'il y a tout un certain nombre de fondements par lesquels il y a des moyens d'action, d'accord, qui sont sur ceux sur lesquels les politiciennes et politiciens ne se concentrent pas dans le débat du moment. Donc, tant qu'ils débattent de l'uniforme à l'école, je veux dire, on peut faire avancer quelque chose dans un autre domaine qui est beaucoup plus thématique. Donc, ça, il faut prendre, je dirais simplement, mesurer la liberté qu'on peut avoir. Cela dit, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, il y a un phénomène contraignant et oppressant par rapport au système, et moi, je ne veux pas le nier du tout. D'accord ? Il y a une tendance, effectivement, à dire... L'inclusion scolaire, c'est l'inclusion des enfants à besoins spécifiques, c'est-à-dire en situation de handicap, sur lequel on a beaucoup progressé, et je rends hommage à ce progrès, mais en même temps, on a voulu complètement normaliser, encore davantage par rapport donc, à la fin des années 90, l'enseignement pour tous. Donc il y a une espèce de contradiction systémique, pour ne pas dire une schizophrénie institutionnelle par rapport à cela. Donc j'ai envie de dire que le moyen d'agir est probablement celui qui permet d'utiliser le mouvement de l'inclusion scolaire pour dire que la spécificité des besoins ne doit pas être amenée ou réduite à une politique fondamentalement nécessaire qui est l'intégration même s'il y a contradiction entre inclusion et intégration, mais disons inclusion des élèves en situation de handicap avec l'ensemble. Parce que moi, j'ai vu des classes dans lesquelles on intégrait des élèves, on l'appelait comme ça, hein, c'est pour ça que je reprends ce terme, intégration d'élèves en situation de handicap, et en même temps, on avait des pétitions de parents pour exclure un enfant qui était turbulent. Donc, il faut utiliser ce qui est la différence qu'on proclame et qu'on affiche comme société, ce qui est fondamentalement, encore une fois, pour moi, nécessaire, à quelque chose de beaucoup plus vaste et philosophiquement parlant, j'y arriverai, donc qui soit adaptable à toutes et tous. Et ça, ça me paraît être quelque chose qui est fondamental aujourd'hui et qui est loin d'être gagné, bien évidemment.
Dans votre préface, Charles Bert, vous parlez de Greta Thunberg, jeune Suédoise qui nous interpelle en disant « Votre action détruit notre avenir ». Ce qui pose la question du sens, de la finalité des apprentissages, du sens dans l'enseignement. Est-ce que là, dans ce domaine, nous avons encore des progrès à faire ?
Énorme. J'ai envie de dire que la sollicitation d'écrire cette préface m'a permis de lire un certain nombre de textes que je n'avais pas lus, et de relire d'autres que j'avais déjà lus. Donc c'est quelque chose qui m'a rattrapé, j'ai envie de le dire, puisque L'avenir est notre affaire, moi je l'ai lu quand j'étais adolescent, et c'était une révélation à l'époque que malheureusement, je le dis en tant qu'autocritique, un peu perdu de vue à certains égards. Et ce livre est un testament qui est quand même extrêmement interpellant pour nos sociétés, en disant... C'est le dernier moment pour se poser la question, je dirais, des progrès, de savoir comment on gère les progrès avec notamment les recherches universitaires, quelle finalité, quels critères, quelle utilité, quels moyens, tout un certain nombre de questions sur lesquelles Denis de Rougemont interpelle l'université, d'accord, pose la question de l'éducation pour changer et sortir d'une logique nationaliste. Et puis on fait le bilan, de nouveau, encore une fois, pratiquement 50 ans après, et on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout agi dans cette direction de façon générale, même si un certain nombre de progrès, je veux toujours les constater, ont été marqués. On reste dans une logique qui est extrêmement, malgré tout, interpellante pour nous, préoccupante pour nous. Alors moi, ce que j'aime de Thunberg, là, c'est qu'elle relance ce cri en disant, quelque part, bon, je ne suis pas dupe non plus d'un aspect médiatisation, comme il y en a dans PISA, il y en a partout aujourd'hui. Mais en même temps, c'est un véritable cri qui est posé.
Le cri des jeunes, qui disent à quoi sert l'université ou l'enseignement si de toute façon on va à la catastrophe.
C'est le cri des jeunes. C'est le cri des jeunes, parce que justement, Denis de Rougemont disait, je le cite en substance, il disait la décadence d'une société se mesure au moment où la question « que puis-je faire ?» est remplacée par « que va-t-il arriver ?» Et elle nous interpelle, Thunberg, pour la question « que puis-je faire ? Que pouvons-nous faire ? Faites !» Donc c'est exactement l'inverse d'un espèce de fatalisme, un espèce de cynisme qui malheureusement accompagne beaucoup trop encore aujourd'hui les débats que nous avons et les politiques que nous sommes d'une façon générale par rapport aux défis du moment.
Quelqu'un d'autre veut réagir sur le sens du désapprentissage, le sens de l'éducation, Raphaël Roupen par exemple.
Je voulais juste ajouter par rapport à ce dernier exemple, c'est aussi, je trouve que ça nous interroge aussi ce phénomène par rapport à la place de la politique à l'école. Enfin, je trouve que ça fait vraiment un lien entre finalement les écrits de Denis de Rougemont, qui voilà interroge, qui parle beaucoup d'éducation civique, c'est quelque chose qui a disparu de nos programmes, etc. Et qui, on a voulu quand même passablement, sans être du tout une spécialiste des programmes scolaires, mais d'avoir le sentiment d'avoir voulu justement dépolitiser, donner cette illusion-là, quelque part, les programmes scolaires. Et on voit ce danger dont vous parliez avant, cet état de fait, ce constat des nationalismes qui reviennent en force. Donc c'est dans ce sens-là. Après, je trouve magnifique d'avoir des gens... soit actuellement sur le terrain ou qui étaient sur le terrain, qui ont un tel regard critique aussi sur leur activité, parce que je tiens quand même à souligner le fait que c'est important justement cette remise en question, qu'il y a toute une série de paradigmes qui n'ont pas évolué, si on fait le lien avec aujourd'hui, mais qu'on a quand même une école, quand on regarde les années 50, on a quand même une école qui reconnaît quand même des individus, où on a l'impression qu'avant, ce n'était pas le cas. Il y avait quand même tout ce système basé sur l'humiliation, enfin, des choses quand même assez dures. Et je pense que ça fait partie justement de la mémoire scolaire, enfin, sur laquelle il faut aussi travailler. Donc à la fois être critique, oui, mais ça sans aucun doute, mais aussi mesurer le chemin parcouru en finalement 50 ans.
Tristan Donzé.
Je voulais juste réagir par rapport à ce qui est dit, parce que c'est aussi un questionnement existentiel que soulevait Denis de Rougemont, même si ce n'est pas associé à l'existentialisme. Il a bien rigolé de la reconnaissance de Sartre quelques temps après par rapport à ses écrits. Et je crois que c'est une question d'existence aussi. S'il dit, je crois, je le cite à peu près, mais la citoyenneté, c'est le respect des forêts. La citoyenneté, c'est le respect des forêts. Déjà à une époque... c'est prophétique pour moi ce discours-là, parce que il sous-entend aussi que l'élan chez l'élève qui se révolte, qui fait la grève, c'est un élan existentiel. C'est j'en peux plus de ce mode de vie, j'en peux plus de cette dynamique systémique, et donc j'ai envie de remettre en cause ce système avec que puis-je faire, que dois-je faire, que puis-je faire, qui sont les questions essentielles de la morale. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'interdisciplinarité peut nous en apprendre, peut apprendre beaucoup par rapport à cette question. C'est-à-dire que peut-être que l'hyperspécialisation, ce que les Allemands appellent les Fachidioten, c'est-à-dire les spécialistes d'un domaine qui sont hyper spécialistes d'un domaine, ont peut-être un élan existentiel un peu on l'a élagué, quoi. On se pose plus la question. Se poser des questions en histoire, c'est se poser des questions en philosophie, c'est se poser des questions en littérature, c'est se poser des questions qui comme ça, vont traverser. Et les questions sont complexes. C'est ce que dit Edgar Morin quand il définit l'interdisciplinarité. Interdisciplinarité égale complexité. Et donc, quand vous faites une éducation, parce que les débats citoyens existent encore, on a eu par exemple eu la jeunesse débat qui a très bien fonctionné dans les écoles, etc. Mais quand le débat citoyen devient une compétition entre des arguments contre des autres, on n'est plus dans une interrogation existentielle. On est à savoir quel parti va gagner. On n'est pas en train de réinventer la société, et on n'est pas en train de se poser des questions qui sont des questions d'existence et fondamentales. Et peut-être que moi, je trouve intéressant dans le propos, à un moment, il dit aussi qu'il faudrait renverser le monde. Et il parle de son collègue éditeur qui pensait à peu près la même chose. Pour changer l'école, il faudrait renverser le monde.
C'est un vaste programme. Hein.
Oui, mais c'est peut-être cet élan, pour faire le lien avec ce que j'ai dit au départ, peut-être que cette utopie, elle doit être vécue, elle doit être un élan de volonté. Et peut-être moi, ce que je vois chez les jeunes, c'est ça, c'est une volonté, c'est de dépasser les idéologies, essayer d'agir dans l'instant et qu'on nous donne les connaissances. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas, pour reprendre une phrase d'un autre pamphlet, les jeunes n'ont pas peur des savants, ils ont peur des pédants. Et donc ils ont peur du pouvoir, ils ont envie peut-être de le renverser pour choisir peut-être d'autres chemins existentiels.
Voilà. Nicolas Stanger, est-ce qu'on...
Un mot pour ajouter à ce qui vient d'être dit très bien. Je dirais que au-delà des cris d'alarme qui sont parfaitement incarnés, notamment par la personnalité de Greta Thunberg, et au-delà de cette volonté qui doit être exprimée, qui s'exprime individuellement chez un certain nombre d'élèves, je dirais que ce qui est intéressant chez Rougemont, c'est qu'il apporte aussi une certaine vision d'une alternative possible, et ça implique quelque chose qui est plus large que la réforme même de l'école et de l'enseignement lui-même, mais c'est aussi tous les cadres politiques, sociaux, une certaine vision de l'Europe, une certaine vision de la région, une certaine vision de la manière de participer à la vie de la cité. Et ça, c'est tout un système que je ne peux pas détailler ici, mais qui est absolument fondamental dans sa réflexion sur l'écologie, bien évidemment, et intimement lié à sa vision d'une Europe fédérée, régionaliste, où les citoyens et les citoyennes peuvent agir, s'impliquer, s'engager concrètement. Donc les deux choses sont liées, si vous voulez. Il y a à la fois une prise de conscience, d'un certain côté, mais cette prise de conscience ne peut s'actualiser à un moment donné qu'à partir du moment où il y a aussi un changement de paradigme politique et d'organisation sociale. Donc ça, c'est absolument fondamental pour lui. Donc il faut faire des Européens. Pour faire l'Europe, il faut faire des Européens. Mais ça va dans les deux sens aussi. C'est un cercle, hein, cette histoire-là.
Charles Lebert, encore un complément.
Oui, juste sur l'Europe. Nous sommes au lendemain des élections européennes. Et je pense que c'est intéressant de constater que, véritablement, la question d'un espace européen politique partagé semble malgré tout émerger de ce débat entre populistes et pro-européens. Je pense qu'il faut aussi regarder encore une fois ce qui peut amener un certain nombre d'éclairages. Et du point de vue de l'Europe, cette espèce de face-à-face aujourd'hui entre les partis traditionnels qui défendent une logique qui est celle de la construction de l'Europe par les nations et en même temps celles et ceux qui veulent protéger la nation contre l'Europe, eh bien, est au bout de quelque chose. Donc il y a la place aujourd'hui pour l'actualité de la pensée de Denis de Rougemont pour repenser les fondements européens, la place de la culture, l'espace partagé également en termes de valeurs, bien au-delà encore de la culture et des langues. C'est une succession sur laquelle Denis de Rougemont nous interpelle, que celle des présences historiques en Europe qui ont fait cette particularité. Et en même temps, la particularité de placer la culture aussi au centre, malgré tout, de ce qu'est cette identité européenne. Alors, je voulais le dire pour être optimiste. Et puis, c'était non seulement pour être optimiste, parce que je trouve qu'il faut une note, et puis ça veut dire qu'il est encore temps de lire, de partager, de discuter et de propager les idées de Denis de Rougemont, mais c'était aussi une manière de rendre hommage à Michel Serres qui nous a quittés, donc hier, je crois, ou avant-hier, et qui, évidemment, était un grand optimiste européen et qui manquera aussi au débat.
Voilà, vous avez l'art de nous remettre dans l'actualité avec Michel Serres et les élections européennes. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous offrir la possibilité d'interpeller nos quatre invités, quatre participants. Vous avez deux spécialistes de l'école, deux historiens en face de vous. Je suis sûre que vous avez des questions sur l'école, sur l'université. Comment réformer l'école, comment la transformer. Nous avons un micro à disposition et je vous serai reconnaissante. Ce micro, où est-il? Il est là, c'est magnifique. Simplement de vous annoncer avant de poser votre question. Il suffit de lever la main.
Bonsoir et merci. Je vous trouve très pessimiste et je prends un exemple tout de suite. Tous les jours, mesdames et messieurs, vous mesurez en tant que conducteur automobiliste la différence entre nos enfants à l'école et les adultes quant à la manière de se comporter sur les passages pour piétons. Les enfants font signe, nous remercient, sourient parce que l'école leur a appris ce comportement en public. Les adultes, pas tous, mais pour la plupart, passe, aucun signe, aucune civilité. Je veux dire quoi? Par cet exemple, l'école a pris des initiatives d'éducation, du vivre socialement, du vivre ensemble, du respect que vous êtes en train de dire, et je trouve que là, on a fait des progrès. Quant au fond, puisque j'ai été acteur un temps dans ce domaine de l'innovation scolaire, permettez-moi de penser quand même que nos enfants et nos petits-enfants ne sont pas ceux que nous avons été avant-guerre, et que après-guerre, il y a eu un mouvement d'innovation que M. Baird souligne très bien, et dans les textes, je confirme tout à fait vos propos, mais s'il me permet un peu de prendre un peu d'écart par rapport à vos propos, dans les pratiques également, je trouve que, à voir nos petits-enfants, ils sont plus curieux que je l'étais étant enfant, ils sont plus vifs également, plus difficile aussi, bien sûr, à conduire, mais ils ont une personnalité qui me semble bien plus grande que celle que nous avions, en tout cas moi, née avant-guerre. Je sens cette différence tous les jours ainsi. Je termine un autre plan. Vous avez parlé de l'Association européenne des enseignants. C'est vrai qu'il y a une réduction qui me désole. J'ai fait partie de la génération d'acteurs de l'instruction publique en Suisse romande avec René Jotran, qui était secrétaire général de l'instruction publique, où nous avons, au niveau des départements, initié une éducation civique européenne. Pendant 10 ans, ça a eu du succès, nous avions des centaines d'enseignants qui venaient, il y avait vraiment une action dans le sens que quelques-uns d'entre vous avaient évoqué. Maintenant, il ne reste plus rien de cela, il reste une association européenne des enseignants que je connais bien, et qui ont des actions sur les langues en particulier, et puis je les ai accompagnés en Bulgarie et dans de nombreux pays de l'Est, mais ils sont une poignée, et essentiellement genevois en plus, une poignée, autrement dit, les enseignants ne s'intéressent pas au postulat que vous avez dit, c'est ma déception. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur Tchoumi, pour votre intervention. Qui souhaiterait agir? Êtes-vous trop pessimiste, Charles Baird?
Je n'ai pas mis assez en avant, je pense, les marches que nous pouvons utiliser et qui sont utilisées par quand même beaucoup d'enseignants. Et c'est vrai qu'il y a une évolution qui est positive de tout un certain nombre d'enfants dans ce système. Mais en même temps, je suis marqué par le carcan politique de cette époque. Je veux dire, je suis arrivé au département de l'instruction publique donc, en 2003. Madame Braunschweig-Graf, qui m'a précédé dans la fonction, avait lancé la rénovation donc, de l'enseignement primaire en particulier. Et je me suis trouvé défendre ces réformes qui, je dois le dire, étaient en grand lien avec l'Université de Genève, qui était aussi largement partagée et pensée. Et ça a donné cette initiative dont j'ai parlé, je crois que j'en ai encore reparlé dans la préface, j'en suis même sûr. D'accord ? C'était une virulence que vous ne pouvez pas, encore une fois, vous le savez, mais qu'on ne peut pas imaginer. Quand on lit, par exemple, que la pire des choses est d'avoir placé l'élève au centre, d'accord, qui était donc un des slogans utilisés par donc, les initiants de l'initiative contre la suppression des notes, donc l'association Arles, association Refaire l'école, d'accord. Donc la pire des choses, c'est l'élève au centre. Et la deuxième chose, tous les grands noms cités par Denis de Rougemont, qui sont des pédagogues genevois, sont traités de pédagogistes. D'accord, de pédagogistes, parce qu'il fallait déprécier le terme en enlevant tout caractère, évidemment scientifique, au sens sciences humaines, donc de l'action, de l'enseignement et de la recherche. Alors, j'ai envie de dire qu'évidemment, quand on voit une initiative comme celle-là qui fait 82% du corps électoral, on a quand même envie de dire que quand on résiste à ce changement-là, on n'est pas vraiment dans l'air du temps.
Oui, bonne réponse.
Oui, moi, je répondrais volontiers par une citation de Denis de Rougemont dans laquelle il dit on connaît l'enfant citoyen, on connaît l'enfant cobaye, je cite à peu près. Hein. Moi, j'aimerais trouver l'enfant, mais cet enfant, il fait peur. Et j'admire ce que vous dites au sens où j'ai trois enfants et je les trouve libres et penseurs et ils aiment l'école et je ne m'attaquerai jamais à cette institution de manière aussi virulente. Ce n'est pas de l'ordre de l'intime et je pense que le discours de Denis Rougemont a quelque chose aussi d'intime, c'est-à-dire qu'on a un rapport à l'école qui est un rapport social. On a un rapport de normes sociales auquel on adhère, etc. Et puis après, il y a toute la question des savoirs formels et informels, de savoir si le fait de traverser un... Moi, j'essaie d'éduquer mes enfants aussi dans ce sens-là. Quand je vais en ville, puisque je vis dans un tout petit village, j'essaie de leur dire « faites gaffe aux voitures », quoi. C'est un truc qui existe. Je ne suis pas sûr que... Parfois, on confond un petit peu l'école, tout ce qui est savoir formel et informel. Et donc l'école se dit, bon, bah, tiens, voilà, on a livré des savoirs formels. Et je trouve génial chez les instituteurs, parce qu'il y a souvent ce moment, enfin je fais trop long, mais c'est beau ça, je trouve, le moment où ils disent, je ne sais pas si c'est moi qui lui ai appris à lire ou comment il a appris à lire, mais le déclic est là. Et il n'y a pas tout cet orgueil de par rapport à savoir est-ce que nous sommes des transmetteurs de savoir, des transmetteurs de valeurs. Et je pense que cette interrogation des valeurs, elle fait partie de la vie citoyenne au sens fort du terme et non pas au sens sclérosé et peut-être un peu idéologique.
Voilà. Raphaël Roupen.
Juste très rapidement, je vais faire un peu mon historienne, mais je pense que les deux discours sont pas éloignés, parce que je pense qu'il y a le temps long de l'éducation, de l'histoire de l'éducation. On peut pas nier quand même une évolution, c'est ce que j'essayais de dire avant. Je sais pas, rien que la notion de plaisir à l'école... dans les années 30, je pense que c'était impensable de dire aux parents, ben voilà, vos enfants vont apprendre en jouant, vont apprendre avec plaisir. Enfin, il y a quand même quelque chose qui a évolué de manière quand même très importante. Et après, ce que vous évoquez, ben, ça montre vraiment l'école en lien avec ses tensions, ce contexte politique, etc., qui subit des avancées, des retours. Et, enfin, dans le temps un peu plus long, je pense qu'on peut... à la fois être optimiste et négatif.
D'autres questions ? Oui, volontiers.
Oui, Caroline Guessin. Je suis surprise qu'on n'ait pas abordé un élément qui me semble quand même assez fondamental dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui par rapport à l'école. En l'occurrence, le fait que le fait de savoir, d'avoir appris, n'a plus la même importance, puisqu'il suffit d'aller sur Google pour le trouver. Hein. Et donc, en tout cas, moi, j'ai encore appris beaucoup, beaucoup de choses par cœur. Et il me semble que ça doit quand même avoir un certain impact sur l'enseignement aujourd'hui. Alors, bien sûr, on exige beaucoup, beaucoup plus de quelqu'un qui sort de l'école maintenant qu'à l'époque, où, en fait, il suffisait de savoir, justement, alors que maintenant, il ne suffit justement pas de savoir, parce que ça ne sert à rien de savoir. Il faut savoir mettre en musique. Hein. Et comment est-ce que, bon, par rapport à ce que dit Denis de Rougemont, en fait, cette évolution se fait ?
Très bonne question. C'est la question de la guerre des intelligences. L'intelligence pour affronter l'avenir. Qui aimerait répondre ?
Moi, je dis volontiers, mais très peu de choses par rapport à ça. C'est vrai que l'apprentissage par cœur, il ne faut pas oublier non plus que l'apprentissage par cœur, il a quelque chose du rapport au cœur, la cordialité et forcément de la résonance. Et je pense que chez Denis Rougemont, ce qui est intéressant, c'est la passion. On peut pas, c'est cette passion de l'écriture qu'il développe lors du lycée, parce que c'est le seul moment d'intimité. Et en fait, il n'écrit que des poèmes, je crois. Hein, c'est juste, j'ai lu ça dans cette magnifique revue, ouais, exactement. Et donc, il a ce goût de la poésie. Et écrire de la poésie, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux, au fond. Mais c'est aussi quelque chose qui demande une écoute du cœur, quoi. Et donc, l'apprentissage par cœur a quelque chose, peut-être, qui a été très dévalorisé par moments, sous prétexte des encyclopédies. Voilà. Mais je pense que le débat est un petit peu faux quand on oppose apprentissage par cœur, savoir acquis, ou etc. En fait, c'est peut-être plus complexe que ça, le rapport au savoir. Et je pense que les deux éléments sont complémentaires. On peut apprendre par cœur, même si apprendre par cœur, c'est être capable de le réciter. C'est Montaigne qui met des citations sur ses poutres pour pouvoir y repenser, et il les apprend par cœur, et elle l'accompagne toute la journée. Donc apprendre un poème, ça peut être vraiment porteur. Par contre, juste par rapport à ça, je ne suis pas sûr que l'école ait abandonné ses apprentissages. Alors j'ai un œil qui est très subjectif sur ce que fait ma fille, par exemple, au niveau secondaire, mais le nombre de choses qu'elle doit apprendre par cœur, justement, alors qu'elle les trouverait dans n'importe quelle revue, avec peut-être un éclairage beaucoup plus, je ne suis pas sûr que l'école ait oublié ça, mais c'est clair que sous l'effet de la nouvelle pédagogie, on a inventé la situation problème, on s'est posé la question des compétences, on s'est posé beaucoup de choses, mais l'école réelle, l'école qu'on voit dans la pratique, je ne suis pas sûr qu'elle soit à l'image de ce qui est demandé dans la formation aussi. Enfin, c'est des questions que je pose, je n'oserais pas y répondre comme ça.
Denis de Rougemont a réfléchi sur l'informatique.
Il a fait
des propositions là-dessus.
C'est un rapport direct avec la question effectivement du savoir. Il y a quelques intuitions et quelques formules très très heureuses chez lui de ce point de vue-là. Ça met en question le problème de l'assimilation et de l'apprentissage et du temps aussi pour assimiler les choses et savoir véritablement. Donc, effectivement, avec l'informatique, avec Internet, on a accès à un océan de savoir. La question est de pouvoir l'assimiler, et pour ça, il faut du temps, il faut pouvoir le digérer. Et il y a toute une réflexion chez lui autour du temps. Et il disait que finalement, ce qui était le plus intéressant, ce n'était pas du tout le bruit, la fureur, la vitesse, mais la lenteur au sein du silence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour lui qui est fondamental, oui.
Charles Lebert.
Oui, peut-être effectivement pour dire que selon les critères de recherche, ou des recherches qui auraient pu être autorisées selon Denis de Rougemont, je ne suis pas sûr que l'informatique aurait été utilisée, aurait été développée comme on l'a développée aujourd'hui, puisqu'il posait la question véritablement de la finalité de l'utilisation. D'accord. Et à ce moment, quand il parle de l'informatique, il en parle, il est précurseur. Mais on n'est pas en train d'imaginer le changement de paradigme auquel on est confronté aujourd'hui. Donc, en même temps, ça montre l'actualité de la question des investissements consacrés au niveau scientifique. Peut-être certains pourraient le considérer comme liberticide à cet égard sur le plan académique. Mais de l'autre côté, on voit également, quelque part, les limites de ce qu'on peut, à un certain moment, mesurer d'une science par rapport à ce qu'elle peut, ou des progrès technologiques par rapport à ce qu'ils peuvent engendrer. Pour en revenir à la question de l'élève, j'ai envie de dire que par rapport au changement qu'on peut constater aussi positif, il y a effectivement ce qu'apportent les enseignants, le système scolaire, mais de façon très inégalitaire. Je reviens au fait que ceux qui vont au théâtre, ceux qui vont se promener dans la forêt, c'est toujours les mêmes classes, c'est toujours avec les mêmes enseignants, et ce n'est pas forcément partagé. Et certains élèves qui n'ont pas de chance restent enfermés dans leur classe toute leur scolarité obligatoire. Et en même temps, pour cela, heureusement qu'il y a les fenêtres extérieures, et notamment Internet en constitue une. Parce qu'aujourd'hui, la place du monde extérieur par rapport aux informations dont bénéficie un élève a véritablement explosé. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que il y a probablement 50 ans, un élève dépend complètement du système scolaire par rapport à la constitution de son jugement, par rapport à son opinion, par rapport à, aux questions fondamentales de l'existence. Or, aujourd'hui, tout est bouleversé. Et peut-être là où nous prenons du retard, pour revenir à la question du système scolaire et à la tentative de réponse à madame, c'est que ce qui est fondamental aujourd'hui du point de vue de l'existence en commun, eh bien, est menacé à certains égards. C'est la place de la littérature et des valeurs, mais c'est en même temps la non-intégration d'un certain nombre de points qui sont fondamentaux. Moi, je le dis, j'ai quitté mes responsabilités il y a plus de 5 ans, donc il y a prescription. Donc je peux dire un certain nombre de choses que je n'étais pas autorisé à dire hier. Je m'étonne encore de voir comment on peut demander de tels efforts du point de vue de l'appris par cœur pour tout un certain nombre même de théorèmes jusqu'au collège, d'accord, sans même enseigner les fondements, je dis bien enseigner, de l'état de droit, sans même enseigner les fondements de la recherche sur Internet, qui sont deux éléments fondamentaux constitutifs de notre société qui ne sont pas intégrés, si ce n'est par des lignes d'apprentissage transversaux dans le plan d'études romans auxquels il faut se raccrocher, mais qui ne font pas malheureusement le changement comme l'hirondelle ne fait pas le printemps.
Donc des progrès encore à faire.
J'ajouterai juste encore quelque chose là-dessus, parce que j'ai envie de rebondir sur ce qui a été dit par rapport au capital culturel aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'on se rend compte quand même que apprendre à écrire, par exemple, c'est extrêmement rigoureux, c'est compliqué. Les règles d'orthographe sont terriblement compliquées en français. Pourquoi ? Parce que c'est une langue élitaire, c'est une langue de pouvoir. Et donc, il y a certaines règles qu'on peut savoir que si on a fait l'histoire du français à l'université et qu'on est capable de distinguer un H aspiré, entre guillemets. Voilà, exactement. Mais tout ça, on oublie aussi un petit peu parce qu'on a eu tout un courant d'ouverture à la littérature. C'est pour ça que j'essaie d'être mesuré, en fait, hein, et non idéologue. Tout un courant d'ouverture à la littérature, justement, d'apprendre à parler, donc à communiquer au travers du dire, de l'écrire, du lire, et comme si tout était lié, au fond. Mais peut-être qu'on a oublié le sens même des textes, c'est-à-dire que le texte devient un prétexte. Le texte, on ne l'interroge plus dans ses rebondissements, dans ses conséquences. Moi, j'aime bien dans les méfaits quand il dit j'aimais bien le nom Zoé. Hein, il se souvenait, voilà, parce que Zoé à La Fontaine, j'aimais bien le nom Zoé. C'est-à-dire qu'on laisse la place à l'élève pour s'interroger sur les textes, sur la valeur, sur les sens qui sont ébranlés ou sur les valeurs qui sont questionnées. Et en plus de ça, il faut lui livrer la possibilité d'investir des jetons de capital culturel dans une société donnée. Et quand je vous disais avant que dans certains apprentissages, on supprime l'apprentissage de la littérature ou qu'on met un petit peu en édulcore l'apprentissage du français, on est en train aussi de créer des illettrés. Et les illettrés, ce ne seront jamais les classes, je vais utiliser un terme un peu démodé, mais les classes dominantes. Ce sera toujours les gens qui sont laissés pour compte. Et donc, il y a une fausse inclusion. Sous prétexte d'inclure, c'est-à-dire d'avoir du plaisir aussi parfois à l'école, on confond le plaisir du sens avec la facilité. Donc, il y a tous ces courants idéologiques qui, aujourd'hui, je pense, il faut les recentrer, les re-questionner. Et puis, et donc, je ne pense pas que c'est l'école de grand-papa contre l'école nouvelle. Ça, c'est un faux débat. C'est un débat qui fait marcher les journaux, qui fait marcher les ventes. Mais la vraie question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va livrer, comment on va inclure les gens, quelles compétences on va leur donner au sortir de l'école. Voilà.
Encore une question. Je suis sûre que vous avez encore envie d'interpeller nos invités. École, université, formation, éducation, enjeux de demain. Monsieur Zuber, recteur de la HEP Béjune, je suis sûre que vous avez une question à poser.
Moi, je suis venu ici pour apprendre, hein, parce qu'on en apprend tous les jours. Non, mais ce que je retiens, moi, de la lecture de ces méfaits que j'ai lus à peu près à l'âge de l'auteur, et avec lequel j'étais parfaitement d'accord à l'époque, comme souvent les jeunes, c'est la question du sens. Parce qu'en fait, de Rougemont pose la question du sens de l'école, du sens de l'enseignement. Et une école du sens, c'est une école qui ajoute de l'épaisseur culturelle. Et je pense que le rôle de l'école moderne, c'est de faire en sorte d'apporter cette épaisseur culturelle dans l'enseignement, parce que par la culture, on apporte du sens. Et un des intérêts maintenant de cette évolution, pour parler de tarte à la crème du numérique, mais un des intérêts, c'est qu'il y a la liberté d'acquérir ce sens, d'acquérir cette culture, et puis de permettre à des jeunes qui n'ont pas accès, qui n'avaient pas accès à une époque passée au capital culturel, peut-être d'accéder à ce capital-là. Pour autant, toujours qu'on les entoure et qu'on leur donne le sens de l'enseignement, le sens d'apprendre et le sens de devenir un citoyen. Et pour moi, en fait, de Rougemont pose ces questions-là. La question du sens et la question du non-sens. Mais je n'ai pas de questions.
Très bien. Alors, moi, c'était un commentaire, une opinion que vous aviez envie de partager. C'est très bien. Est-ce qu'elle vous amène une réflexion, M. Baird ?
Oui, juste une, et c'est ma dernière, je vous rassure, c'est sur la question du sens, je rebondis, la question du sens de ce qu'on apprend à l'école primaire, de ce qu'on apprend à l'université, ce qu'on fait dans la société, le sens des recherches, c'est toujours la question du sens, et en même temps, l'éducation dans la perspective de la recherche du sens. Et justement, c'est ce qui est régulièrement, je dis, maltraité aujourd'hui, parce que la question du sens, c'est justement apprendre plutôt que mesurer par un certain nombre d'évaluations. Je reviens sur mon traumatisme, puisque c'était l'exercice de ce soir, pour dire un élément que je trouve frappant de la fameuse initiative refaire les notes, donc, c'est-à-dire remettre les notes à l'école, refaire l'école, c'est remettre le redoublement, qui doit être à tout prix le seul élément de régulation de l'échec scolaire, c'est-à-dire ne pas accepter qu'on ne progresse pas au même rythme, c'est-à-dire imposer de façon extrêmement forte les choses. Puis deuxième chose, la question de l'évaluation, puisque dans ce moment de l'évaluation, ce qu'on a voulu interdire par le retour des notes, c'est l'évaluation formatrice par laquelle l'élève, eh bien, se forme également par l'évaluation, pour arriver à une évaluation qui, en fait, sanctionne ce qui aurait été réussi dans le cadre d'un examen ou pas. Et j'ai envie de dire que privilégier le sens, c'est là où Denis de Rougemont quand même relie les deux choses, passe effectivement par une libération de l'enfant dès l'école primaire, notamment en prenant en compte son rythme, en acceptant que le but est d'apprendre et de mesurer de différentes manières comment il progresse plutôt que de le sanctionner avec, si possible, toujours le même tiers d'échec qui montre qu'on est bon parce qu'on est sélectionné et puis on n'est pas mauvais parce que la majorité a réussi.
Très bien, nous arrivons au terme de notre discussion. Pour clore ce débat, j'ai demandé à chacun des participants d'isoler une phrase, une idée qu'il trouvait particulièrement pertinente par rapport à notre débat ce soir, Denis de Rougemont et l'école. On va d'abord demander à nos deux historiens quelle est l'idée qu'ils ont choisie et qui résume les enjeux de notre discussion de ce soir. Nicolas Stangère.
Alors, ce n'est pas une idée, c'est une citation
courte
que je voudrais vous livrer, courte, sans commentaire plus avant, sinon que ça fait écho à pas mal de choses qu'on a dit ce soir, notamment à ces pédagogues qualifiés de pédagogistes et aussi au courant idéologique desquels se réclamait Denis de Rougemont. Il faut que je la trouve, simplement, je ne l'ai pas marquée.
Alors on va demander peut-être à Raphaël Roupen de prendre...
Voilà, je vais la trouver, je vous promets, je vais la trouver. Alors elle est là, oui, elle est là. Donc c'est un hommage en fait à ces pédagogues de l'école nouvelle dont Rougemont a connu certains puisqu'il a été l'étudiant de Jean Piaget notamment. Et il dit, voilà, « Je soupçonne dans tous ces mouvements des possibilités lointaines qui sont pour me plaire. Un grignotement du système officiel qui pourrait bien un jour l'atteindre au cœur et je vois tout ce que cela entraînerait dans une ruine d'où renaîtrait peut-être l'humanité. » En attendant, puisqu'il faut attendre, je salue ces jeunes gens qui appliquent avec ferveur les principes de l'école libre, qui se moquent des programmes et dont les classes sont de vraies foires. Ils éduquent de futurs anarchistes. Bravo.
Merci beaucoup. Raphaël Ruppen-Coutin.
Alors moi, je me suis arrêtée sur la phrase suivante des méfaits, où il dit donc, le bon sens voudrait qu'on étudie d'abord la science dans sa réalité, puis qu'on se réfère au résumé comme à un aide-mémoire. Mais l'école veut qu'on commence par apprendre le résumé. D'ailleurs, elle s'arrête là. Et pour moi, cette phrase, je la trouve fondamentale. Enfin, elle fait vraiment écho à mes préoccupations aussi. C'est l'idée, vraiment, l'importance de ne pas justement simplifier le monde, mais peut-être qu'en démontrant la complexité justement des enjeux, ça permet aussi d'éviter justement les certitudes et peut-être de sensibiliser finalement aux particularités, aux exceptions, aux différents points de vue. Et ça me paraît être important pour justement, Denis de Rougemont disait, ne pas faire de l'école une machine à fabriquer des électeurs, mais plutôt une machine à fabriquer des citoyens. Et là, je le rejoins.
Tristan Donzé, votre choix.
Alors, c'est quelque chose qui a un lien avec la poésie, au fond, puisque c'était le point de départ. Et donc, je le tire des méfaits. Dans une composition sur la neige, Victoria, 10 ans, écrit : c'est l'hiver. Déjà, la terre a revêtu son blanc manteau. Elle aura 10 sur 10. Mais on donnera 3 sur 10 à Sylvie pour avoir trouvé. Quand il neige, c'est comme des petits morceaux de ouate. Il est évident que Sylvie est supérieure à Victoria, dans la mesure où l'invention est supérieure à l'imitation. Mais Victoria montre une âme docile, un rassurant défaut d'esprit critique, tandis que Sylvie appartient manifestement à la race dangereuse de ceux qui voient avec leurs yeux.
Merci beaucoup. Charles Bert, une idée, ça peut être une idée, une
citation.
Mais
c'est beaucoup moins poétique. Vous ne m'en voudrez pas, c'est peut-être plus politique directement, parce que la poésie est politique. C'est la référence à la question de la tour de Babel dans Université et universalisme, avec la question fondamentale de l'interprétation, puisqu'il se réfère à Dante, d'accord, et la mise en évidence du fait que ce ne sont pas des langues étrangères qui donnent l'impossibilité de communiquer, mais bel et bien donc le fait d'exercer des savoirs et des disciplines, des professions, de façon isolée et séparée, dans l'incapacité de construire la ville, donc la tour, en fait, commune. Donc c'est un élément que je trouve particulièrement interpellant en cette époque, c'est-à-dire l'hyperspécialisation de laquelle découle notamment tout un certain nombre de retours très artificiels, mais ô combien symboliques, forts et violents, de retours donc à une identité d'autant plus forte qu'elle est en grande partie inexistante.
J'aimerais vous remercier tous les quatre pour cette discussion riche et stimulante, et je vous remercie de les applaudir.